Bonjour Atay Bassan.
Oui, bonjour.
Bonjour Kala.
Bonjour.
Christelle, qui était en stage cet été sur les ondes de Radio MDM. Merci à toi, ma chère Christelle, de nous avoir permis cette rencontre avec Atay. Aujourd'hui, Atay, vous devriez être en cours là, en ce moment même.
Justement, à 11h jusqu'à 12h, j'aurai cours des réseaux informatiques.
Bon, bah, merci de nous faire l'honneur d'être là à la place. Cette rentrée en BTS que vous avez faite en septembre, c'est presque la dernière étape de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a eu dans la foulée la demande de titre de séjour étudiant à la préfecture de Mont-de-Marsan, dont vous attendez toujours la réponse aujourd'hui. Alors, pour me parler de ce parcours, vous l'avez découpé en deux, celui au Tchad et celui en France. Au Tchad, l'histoire commence en août 2019. Vous êtes alors âgé de 19 ans. Et parce que vous décidez de monter une association contre les violences faites aux femmes, vous êtes arrêté et torturé. Est-ce que, avant d'approfondir les raisons liées à cette arrestation, vous pouvez nous parler de ce qui vous a motivé pour créer cette association?
Merci de m'avoir invité sur cette radio. Je m'appelle Atif Hassan Mohamed, je suis tchadien et je voulais créer une association dans le but de défendre les droits des femmes liés aux violences conjugales, liées à mutilations génitales féminines et liées au mariage précoce et mariage forcé par la voie des sensibilisations afin de réduire les taux de violences faites aux femmes.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de la créer, cette association?
Cette association, seule chose qui m'a motivé, c'est-à-dire les camarades qu'on a commencé à étudier dans l'école primaire, elles se sont victimes de cette violence et elles se sont arrêtées leurs cours en milieu scolaire. Et deuxième raison, ma grand-mère aussi, elle était victime de cette agression forcée. C'est elle, après son décès, et c'est-à-dire en hommage de son décès, je voulais créer cette association.
Et donc, on vous a arrêté parce que vous avez voulu monter cette association.
Justement, l'autorité locale et les chefs de village avaient complicité de tout ça parce qu'ils profitent derrière cette pratique de l'argent, c'est-à-dire ils faisaient de l'argent. Par exemple, si l'exigence sur une jeune fille, les chefs de village et les autorités locales gagnent 4 000 francs CFA, c'est-à-dire 2 000 aux autorités locales et 2 000 aux chefs de village.
Donc, vous alliez les gêner en montant cette association et en informant les gens.
Justement, parce que moi, j'empêche de faire de l'argent derrière cette pratique.
Et donc, c'est grâce au fils du chef du village, qui était un ami à vous, que vous avez pu sortir de prison à condition de ne pas maintenir l'association. Et c'est lui qui vous a fait aussi rencontrer un passeur. Ce passeur vous a caché chez lui pendant 2 mois. Ça a été quoi votre vie pendant ces 2 mois cachés?
Ça a été très difficile, mais il n'y a pas une autre solution. C'est un passeur qui avait jardin 20 km de capitale N'Djamena et il m'a mis dans son jardin et je lui ai donné tout l'argent que j'avais et celle que l'association, membre de l'association, m'a collecté. Et ensuite,
Les gens qui avaient monté l'association avec vous ont récolté des fonds pour vous aider à sortir de prison?
justement pour me faire fuir.
Oui, pour
Et
quitter le pays.
je lui ai donné tout cet argent, le passeur, il m'a laissé dans son jardin. Et chaque semaine, il m'amenait des nourritures et tout ça. Il me dit qu'il n'est pas sortir de ce jardin. Il faut rester pendant 2 mois. Il a fourni tous les documents possibles pour me faire fuir.
Oui, entre le mois d'août, après votre libération, et le mois d'octobre, avant que vous quittiez le territoire tchadien, vous étiez caché dans ce jardin et la police qui vous cherchait aussi.
Justement, la police souvent vient au capital N'Djamena puisque j'avais pas de famille là-bas et ils pensaient que je serais dehors, ils me trouvent facilement.
Mais non, vous étiez bien caché. Et donc le passeur vous conduit finalement à l'aéroport. Vous avez 1 heure pour quitter le pays et vous faites escale en Égypte. Ce moment d'attente en Égypte entre 2 avions, vous étiez dans quel état d'esprit? Quel risque vous encouriez à ce moment-là?
C'était un grand risque, c'était une forte probabilité que les polices m'arrêtent puisque les passeurs ont corrompu les chefs de sécurité de l'aéroport N'Djamena à Saint-Djamous et le chef de sécurité a donné seulement 1 heure pour quitter. Si après 1 heure, il ne serait pas responsable de
De ce
l'arrestation,
qui vous arriverait.
justement.
Ouais. Et donc, quand vous arrivez enfin à Paris, vous vivez dans la rue et ce sont des réfugiés soudanais qui vous épaulent pour les démarches et vous orientent vers Bordeaux.
Justement, lorsque j'étais arrivé à Paris, deuxième jour, premier jour, j'étais dormi dans la rue. J'ai trouvé, c'était à Courneuf, sur la rue de Courneuf. J'ai trouvé des réfugiés soudanais et j'ai dormi avec eux dehors. Et après ça, ils m'ont orienté de partir à Bordeaux puisque moi, je supporte pas beaucoup de fraîcheur. Et ils m'ont orienté, Bordeaux, c'est un peu mieux pour aller à Bordeaux et faire ta demande d'asile. C'est eux qui m'ont orienté. Lorsque j'étais venu à Bordeaux, aussi j'ai trouvé des réfugiés soudanais. Et ils m'ont orienté. Il y a un squat qui dort beaucoup de réfugiés. Comme ça, ils m'ont orienté sur ça. J'étais là-bas.
Il y a une vraie solidarité entre les personnes réfugiées qui sont... du coup, là, c'était des personnes qui étaient à la rue.
Justement.
Oui, c'est ça?
Oui, justement.
OK. Et donc, à Bordeaux, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vous propose un hébergement à Aire-sur-la-Dour. Ça va être aussi votre rencontre avec Kala, qui est là. Quand vous arrivez à Aire-sur-la-Dour, vous êtes dans quel état d'esprit, Ataïb?
Justement, lorsque j'étais arrivé à Aire-sur-la-Dour, j'ai un peu soulagé des souffrances de la rue, de dormir, d'aller à 115 et appeler toujours place occupée. J'étais soulagé de ça. J'étais content de.
Parce que là, vous aviez un hébergement à Aire-sur-la-Dour.
Justement, j'avais un hébergement à Aire-sur-la-Dour.
Et donc, comment, Kala, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes rencontrés à Ataïb et toi?
Alors moi, j'habite à 15 km d'Aire-sur-la-Dour. Et en fait, dans le cadre de mon travail, je recherchais pour illustrer une histoire sur un album pour enfants sur l'histoire des réfugiés et, du mariage forcé. Je cherchais aussi une intervention dans une école de réfugiés qui parlaient bien français. Et donc, l'association m'a fait rencontrer Ataïb et j'ai gardé contact avec lui. Voilà.
Et vous êtes devenus amis.
Oui.
Et c'est toi qui nous l'as amené et merci.
Oui.
Et donc, tu l'accompagnes aussi dans ses démarches ou pas du tout?
Oui. Alors, depuis fin août, je l'héberge à la maison. Et donc, je l'ai accompagné à la préfecture pour faire sa demande de séjour, de titre de séjour étudiant. Voilà.
Ok. Parce que, donc justement, à Ataïb, vous avez passé un entretien avec l'OFPRA, qui est toujours l'Office français pour la protection des réfugiés et des personnes apatrides. Comment ça s'est passé, cet entretien à l'OFPRA? C'est ces personnes-là qui décident si oui ou non vous avez le titre de réfugié. Comment ça s'est passé, cet entretien?
L'entretien s'était passé le 7 juillet 2020. Ça a duré 2 heures du temps au locaux de l'OFRA avec un officier et avec un traducteur. J'ai pris un traducteur avec langue arabe et ça a passé 2 heures du temps.
Et qu'est-ce qu'on vous a demandé pendant cet entretien?
Ils m'ont interrogé sur mon rôle sur l'association et sur mon parcours et comment l'arrestation a été passée. Ils m'ont interrogé sur ces points.
Et donc, après le refus, vous avez été à la cour... alors attendez, il faut que je retrouve le nom. La CNDA, je crois, c'est la Cour nationale de demandeurs d'asile. Ouais. Et donc, ça a été un nouveau refus. Quel motif on a invoqué pour refuser votre demande?
Bon, pour motif de refus de CNDA, Cour nationale des droits d'asile, ils ont dit qu'ils ont accepté les premiers refus de l'OFRA. Ils ont accepté les premiers refus de l'OFRA, puisque pour certaines personnes, si l'OFRA a refusé, le Cour national des droits d'asile examine les dossiers et il voit certains points. Et pour mon cas, ils ont accepté les premiers refus de l'OFRA. Ils sont considérés comme un refus final.
Qu'est-ce qu'il y a, Kala? Non, rien. D'accord, donc c'était un non définitif.
Oui, non définitif. Ils ont manqué de l'information sur... les questions et...
Sur votre... Comme ce que disait tout à l'heure Maître Savary Goumi, c'est qu'il n'y avait pas assez de précision par rapport à votre dossier.
Oui, justement.
D'accord. Et donc, la vie en France, ça se passe comment depuis votre arrivée en 2019 et aussi, pourquoi la France?
Depuis les 15, depuis le 16 août 2019, lorsque j'étais venu en France, je me sentais soulagé et je me sentais sauvé même. Si je serais là-bas, à ce moment, je serais tué aussi, arrêté et tué aussi par les autorités, puisque j'étais danger pour eux et j'empêche beaucoup de choses, les autorités qu'ils faisaient, et je l'oppose à cause des droits des petites jeunes filles.
Et donc, si vous retournez au Tchad aujourd'hui, quel risque vous encourez?
Si je retourne au Tchad, il y a beaucoup de risques, puisque premièrement, je serai isolé, il n'y a pas personne qui va me défendre. Et deuxièmement, je serai nouveau arrêté encore. Et ils vont me faire tout ce qu'ils veulent de moi.
D'accord. Donc là, pour l'instant, effectivement, vous êtes bien mieux en France, dans votre BTS réseau informatique. Merci beaucoup, Atem. Merci, Kala, d'être venu partager ce témoignage avec nous.